Bonsoir, comment allez-vous? À quoi ressemble une journée normale d'une vie normale en ce moment? Être réveillé en sursaut par un radio-réveil qui parle de la campagne électorale, puis filer sous la douche, ou le bonheur de l'eau chaude se dissout dans l'idée que vous n'avez pas encore payé la note de gaz. Au moment de vous habiller, vous réalisez que vous n'avez pas fait ce week-end le repassage programmé. Deux solutions, remettre un truc à peu près repassé mais sale, soit enfiler une chemise propre mais chiffonnée. Les 4 minutes passées à hésiter ont suffi à vous faire rater le RER. Vous prenez la voiture, ce qui permet d'écouter la radio qui parle encore de la campagne électorale. Heureusement, la radio est interrompue par le téléphone. C'est la fille chargée de votre compte à la banque. « Ah, vous avez un découvert, non, vous ne saviez pas. C'est une découverte au féminin, oui. Oui, c'est gentil, à vous de me prévenir. Bien sûr, vous allez faire ce qu'il faut. » Ouf, vous raccrochez, un double appel vous délivre. Le lycée. « Votre fils n'est pas venu ce matin. Non, vous ne saviez pas. Non, non, vous n'êtes pas un parent démissionnaire. Oui, vous allez faire ce qu'il faut. » Vous raccrochez, pensif. « Où est-il? Va-t-il bien? Que fait-il? Allez-vous appeler sa mère ?» Vous ne démarrez pas assez vite. Le gars derrière hurle, klaxonne, vous traite de con. Vous démarrez, vous calez. Fermez les portes à clé, ils sont 12 à klaxonner maintenant, ils vont venir soulever la voiture. Vous vous rappelez que vous avez rendez-vous avec votre boss et que votre chemise n'est pas nette. Tant pis, vous allez en acheter une neuve. Aurez-vous le temps? Il faudrait que ça avance, il faudrait faire réparer ce démarreur. Oui, oui, bien sûr, vous allez faire ce qu'il faut. Pour ne plus caler, pour ne plus être traité, harcelé, terrorisé. Faire ce qu'il faut, c'est faire quoi au fait? Ce soir, nous allons parler du désert.
On ne peut pas entrer dans un désert comme le Sahara sans avoir un certain respect devant. C'est tellement fantastique, tellement impressionnant à certains égards. Puis le silence, etc. C'est grandiose, c'est quelque chose de grandiose. Moi, j'entre au Sahara comme j'entrerais dans une cathédrale.
France Inter. État d'esprit. Noël Bréham.
Voilà, nous commençons par cet Archivina Radio France, un grand classique quand on évoque le désert. Vous aviez reconnu la voix de Théodore Monod. Sébastien de Courtois, bonjour.
Bonjour.
Alors la dernière fois que je vous ai reçu, c'était pour un thé à Istanbul, édité chez Le Passeur. Titre qui faisait déjà, bien sûr, penser au Sahara. Vous êtes correspondant à Istanbul pour la presse écrite. Vous animez Chrétien d'Orient sur France Culture, nous y reviendrons. Pour ce dernier livre, Passer par le désert, sur les traces de Charles de Foucault, édité chez Bayard, vous menez une enquête, plus que vous n'écrivez une biographie. Vous écrivez sur des œufs. L'époque et cette région du monde sont sujets à culpabilité, douleur, rappel des erreurs. Vous, c'est le parcours spirituel d'un homme dont le nom est plus connu que la personnalité, finalement. Que vous nous racontez là?
Un parcours humain avant tout finalement, parce qu'un parcours spirituel, c'est l'image qui nous en est restée et qui arrive déformée finalement avec le temps. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'homme, c'est d'essayer de me mettre un petit peu à sa place, de reconstituer l'époque, son environnement social, familial, la mort très jeune de ses parents, une vieille famille de la noblesse française, mais alliée à la bourgeoisie, donc républicaine, ce qui n'était pas le cas de toutes les familles.
Ce qui ne doit pas être si facile d'ailleurs, à l'intérieur d'une même famille.
Ce qui n'est pas forcément facile, bien entendu, mais ce qui explique aussi les positions du père de Foucault après dans sa vie dans le Sahara, dans son rapport à ce qu'on appelle les autres, mais qui étaient concrètement les gens du désert, les Bédouins, les Touaregs. Quelqu'un qui a été marqué profondément par son époque et le fait peut-être d'être orphelin, fait qu'il a été, il s'est ouvert au monde, je pense, très très vite.
Alors, commençons par le début, Sébastien de Courtois, parce qu'effectivement, peut-être que les plus grandes révélations sur Charles de Foucault sont celles que vous donnez sur le début de sa vie. D'abord, il est né en quelle année ?
En 56, je crois, 1856.
1856. Alors, vous dites qu'il est orphelin, de père et de mère, de une partie de ses grands-parents. En plus, je crois que son père était psychotique. Il est allé à la clinique du docteur Blanche, ici, à Passy, là, à deux pas de la maison de la radio.
Exactement.
Donc, ça devait pas aller très fort, quand même.
Il a été élevé par son grand-père, qui a pris en charge le jeune Charles avec sa sœur. Et un grand-père qui était une figure tutélaire pour lui.
Pas les techniciens militaires.
Voilà, qui l'a dressé comme il fallait, mais qui devait être aussi avoir la bonhomie et la gentillesse et pardonner beaucoup de choses au jeune Charles.
Donc il avait à se faire pardonner d'ailleurs, il était très mauvais élève.
Sur le début de son enfance, on ne sait pas tellement de choses, mais sur le reste, oui, c'était un polisson, il était insolent, il répondait.
Arrivé bon dernier à Saint-Cyr.
Il ne voulait pas travailler, il était... paresseux, il se faisait faire des costumes sur mesure. Non, pas des costumes, pardon. Mais
il faisait des costumes sur mesure parce qu'il était gros.
Ses uniformes, voilà, ses uniformes à l'armée. Enfin, il collait pas vraiment avec l'image d'un Saint-Cyrien de l'époque, qui devait être les meilleurs, l'élite d'une génération. Mais il a réussi à faire son chemin, voilà, et c'est ça qui est fascinant. Ce qui m'a intéressé, c'est de me mettre à la place d'un homme qui semblait être comme tout le monde. Voilà. Ouais. Et en fait, il ne l'était pas parce qu'il a eu très rapidement aussi un deuxième éveil au monde qui a été celui de la foi et peut-être aussi celui du désert.
Après. Alors, nous allons voir ça avec vous, Sébastien de Courtois, tout au long de cette heure, le chemin de Charles de Foucault. Mais c'est vrai que c'était important de parler de ses débuts parce que c'est tellement étonnant. Les débuts de sa vie par rapport à la suite, et c'est plutôt la suite que nous connaissons, même cette photo.
Oui, la photo qui a été prise à Tamanne Rasette, c'est certainement, où il est très, un visage émacié. Mais il y a une belle lumière dans son regard, dans ses yeux.
Mais finalement, on ne connaît qu'une seule photo de Charles de Foucault. Il est très maigre, donc quand vous racontez dans votre livre qu'il était gras comme un cochon, c'est étonnant.
On a du mal à y croire. Oui. Mais il y a plusieurs photos, en fait, de Foucault, mais à des époques différentes de sa vie, parce que des gens passaient tout de même dans ces endroits. C'est ça qui est étonnant aussi.
Alors nous allons justement évoquer toutes les époques de sa vie avec vous au long de cette heure.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you.
America, nous étions en 1972, A Horse with No Name.
France Inter, Noël Bréham, État d'esprit.
Passer par le désert sur les traces de Charles de Foucault, c'est le titre de votre livre, Sébastien de Courtois, édité chez Bayard. Donc ce Charles de Foucault, on le découvre dans votre livre comme il était, c'est-à-dire orphelin, sympathique, gros alors qu'on pensait qu'il avait toujours été maigre. Il disait qu'il mangeait beaucoup et qu'il dormait beaucoup. Et puis, il s'engage dans l'armée, il a fait Saint-Cyr, c'était donc son projet. Mais là encore, il habite tout seul, il a beaucoup d'argent parce qu'il hérite de son grand-père. Il fait des fêtes extraordinaires, il a des copines.
Il a une vie de bamboche, comme on pourrait dire à l'époque. Un garçon de famille fortuné qui, effectivement, hérite à la mort de ses parents à ses 18 ans d'une fortune assez colossale pour l'époque. Et on peut dire qu'il a un destin, finalement, qui commence de manière tout à fait commune. On était encore à une époque où l'armée était profondément attachée à avoir des gens qui avaient des titres dans leurs officiers supérieurs. Et lui se disait que c'était pratiquement normal qu'il soit là. Donc il ne faisait strictement aucun effort pour se faire...
Il avait un nom, il avait de l'argent.
Voilà, on ne se posait pas plus de questions, je pense.
Il avait réussi Saint-Cyr, bon dernier, mais réussi quand même.
Exactement, et puis il allait d'une garnison à une autre. Il a découvert l'Algérie grâce à l'armée, c'est ça, il ne faut jamais l'oublier.
Vous dites d'une garnison à une autre, mais il avait quand même, entre guillemets, un Bézenville à Paris.
Oui, tout le temps. Ça c'est une tradition un petit peu.
Ouais, donc il m'embauchait à Paris aussi.
Et puis c'est un homme qui a connu des femmes, bien entendu, alors sans des excès. Il faut faire attention par rapport à notre époque, mais disons, il a eu une vie amoureuse importante. Et voilà, il y a des anecdotes, là c'est une certaine Mimi qui a traversé sa vie, alors je me suis demandé si Mimi avait laissé des traces, s'ils avaient eu des correspondances après. Il a failli se marier, sa famille voulait le marier bien entendu.
Famille voulait peut-être pas le marier à Mimi.
Pas à Mimi, non. Et même, lui voulait se marier avec une jeune fille d'Alger, mais la famille n'a pas trouvé qu'elle était assez bien pour lui. Finalement, ça lui a permis de gagner du temps, parce qu'il a pu faire ce qu'il voulait plus facilement. L'aventure, moi je crois que c'était quelqu'un qui était attiré par l'aventure, par l'exploration, son fameux voyage au Maroc, qui a été exceptionnel.
Alors avant que vous nous parliez de son voyage au Maroc, Sébastien de Courtois, parce que ça c'est quand même une aventure effectivement exceptionnelle, il est en France, il va de garnison en garnison, il est envoyé à Alger, où il part avec sa Mimi, ce qui est moitié bien vu. Je me demande si l'armée l'a pas renvoyé pour indiscipline, parce que finalement, il ne faisait que ce qu'il voulait.
Alors, il la présente comme sa femme, mais ça se faisait pas tellement à l'époque. Donc, l'officier, son général, lui a dit « soit vous l'épousez, soit vous la renvoyez », et lui a démissionné. Alors, il quitte l'armée, sous un coup de tête, il va s'installer quelque part en France, autour d'Évian.
Donc, il revient en France,
voilà, comme un civil.
Donc et il quitte l'armée.
Il quitte l'armée, voilà, une première fois, ce qu'il faut quand même oser le faire.
Parce que soit il est resté dans l'armée avec Mimi, soit si on voulait pas de sa Mimi,
il partait. Il devait l'épouser, voilà, ça se faisait pas. Il quitte et il lit dans la presse quelques mois après que son régiment est impliqué dans des escarmouches sur la frontière. Il dit, mais je veux y aller, marocaine, au sud-ouest. Et il demande à se faire réintégrer dans l'armée. Voilà, ce qui n'a jamais été, ce qui était rare tout de même, et ça a été accepté. Voilà, donc il fait marcher ses réseaux, et il redevient officier. Mimi, on n'en entend plus parler. Il retourne en Algérie, il mène des combats de manière très, très courageuse. Et finalement, il ne restera tout de même pas dans l'armée. Voilà. Mais il voulait, je pense, avoir cet éclat, avoir ce moment, cette expérience, cette espèce d'aventure. Il ne faut pas oublier qu'il a moins de 25 ans, donc on peut.
Il a moins de 25 ans. On reparlera de la colonisation, parce qu'effectivement, il voulait en découdre en tant que militaire. Il a écrit que les Français n'avaient rien fait pour les autochtones. Il est quand même très, très critique déjà.
Alors, ça, c'est un sentiment qui se développera après. Voilà. D'accord. Mais pour des raisons très particulières. C'est quelqu'un qui n'a jamais remis en cause le fond même de la colonisation, mais lui parlait d'une véritable égalité. Et c'est là où était la différence avec le parti colonial classique, qui avait donc, ne l'oublions pas, instauré une différence entre les confessions. Donc les citoyens français musulmans, par exemple, n'avaient pas les mêmes droits que les chrétiens ou les juifs après le décret Crémieux. Donc ce qui s'est passé, c'est que lui disait « oui, nous allons réussir cette colonisation, nous allons réussir cette œuvre de civilisation », il était tout à fait dans son époque pour penser ça, à condition que nous imposions une véritable égalité. Et c'est là où il était complètement révolutionnaire, parce que lui prenait au sens premier la devise liberté, égalité, fraternité.
Fraternité. Alors racontez-nous son voyage au Maroc, parce qu'il voulait aller au Maroc, mais il n'avait pas le droit en tant qu'Européen de rentrer dans le Maroc de ces années-là. Vous pouvez peut-être nous rappeler à peu près.
Alors c'est très intéressant, parce que c'était le sultanat du Maroc, donc qui compte complètement indépendant, autonome bien entendu. Nous sommes avant la période du protectorat, et le sud marocain était une zone inexplorée. Voilà. Donc il s'était mis en tête de la traverser et il se déguise en rabbin ashkénaze, donc venant de Pologne, je crois. Donc ce qui justifiait qu'il avait appris l'hébreu et qu'il le parlait avec un fort accent.
Il était très doué pour les langues, ce Charles de Foucault. Hein.
Essentiellement. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'il était brillamment intelligent, en fait.
Sébastien de Courtois, nous sommes en... Lui, il a 25 ans, à peu près, donc Charles de Foucault. Et nous sommes à peu près en quelle année, là? On est fin 19e, quoi.
On commence le dernier quart du 19e siècle, vers 1870. On est après la défaite de 70. N'oublions pas qu'il est alsacien.
Ah oui.
Voilà. Enfin, il est alsacien. Oui. La famille est originaire du Périgord. Mais il est né à Strasbourg.
D'accord.
Donc, il y a toujours aussi dans ces gens-là, c'est une histoire de génération. Il faut jamais l'oublier quand on parle de l'Algérie, quand on parle de cet élan à partir de 70, c'est que c'est une défaite. Et donc, tous ces gens qui venaient des territoires perdus, se disaient, on va bien se réinstaller quelque part. Oui. Et il y avait un petit peu cette idée.
De récupérer
quelque chose. Et je fais le parallèle dans le livre avec Arthur Rimbaud, qui est la même génération. Je crois qu'ils ont 2 ans de différence.
Ah oui.
Et Arthur Rimbaud, pour d'autres raisons, bien entendu, c'est pas le même milieu social, c'est pas la même forme d'intelligence, mais n'oublions pas que Rimbaud, après la poésie, a eu une autre vie qui était la vie d'Aden et la vie de Djibouti. Au territoire des Afars.
J'ouvre une petite parenthèse. Sébastien de Courtois, vous avez écrit, édité chez Nil, Éloge du voyage, sur les traces d'Arthur Rimbaud. Donc voilà, la boucle est bouclée. Donc, le Maroc de cette époque était fermé aux Européens. Les Juifs étaient mal vus, mais ils avaient le droit de circuler au Maroc. Donc, il se déguise en juif, Charles de Foucault, avec un guide. Alors, juif aussi.
Il est accompagné par le rabbin Mardochée, dont il fait la connaissance à Alger. Et la sœur ou la cousine de Foucault, je me souviens plus très bien, lui paye la moitié simplement de ce qu'on lui devait à l'époque, à condition qu'il ramène Foucault vivant. On lui paiera la suite de son traitement. Voilà. C'était des zones dangereuses. Donc, il voyage dans le sud marocain, en allant d'une communauté juive à une autre, dans un village à une autre, et puis, voilà. Et c'est très intéressant parce que c'est un monde qui n'existe plus non plus. Donc le livre qui va sortir de cette exploration, qui sera primé par la Société de Géographie à l'époque, est en fait une œuvre d'ethnographie, mais très importante aujourd'hui, pour comprendre finalement quelles étaient ces populations et ces traditions à l'époque.
Vous racontez, Sébastien de Courtois, qu'il cache dans sa main un tout petit carnet, un tout petit crayon, il prend des mesures, il prend des notes, parce que c'était un chrétien déguisé en juif dans un pays musulman.
Voilà, donc plusieurs manière de ne pas forcément être... il fallait pas qu'il soit remarqué et surtout qu'il prenait des mesures en termes de topographie. Donc c'était des mesures scientifiques. Donc ça voulait dire à un moment donné...
De l'espionnage.
Voilà. Et là, il fallait faire, je pense, très très attention. Ça se passe bien. Il est juste reconnu à un moment par d'autres communautés juives comme non-juifs parce qu'il se lavait la barbe avec de l'eau. Ce qui ne se faisait pas dans cette partie du sud.
C'est la vérité si je mens, votre histoire.
Voilà.
Alors on pourrait... Il a fait une bourde.
Voilà, il a fait une bourde. Donc les autres avaient compris. Et en fait, je pense que plusieurs... C'est pas que je pense, c'est que ça a été dit. Non, le père Jean-François Six, qui a beaucoup écrit sur Foucault, explique très bien en fait que certainement ses hôtes musulmans qui le recevaient avaient compris aussi qu'il n'était pas forcément ce qu'il prétendait être. Voilà.
Il s'était fait griller.
Oui. C'est une époque où on se déguisait aussi. C'est une époque où on regardait à penser à Burton, Richard Burton par exemple, ou ce voyageur hongrois qui est allé à la Mecque. On n'hésitait pas à prendre de tels risques pour se faire passer pour ce qu'on n'était pas, pour découvrir tout simplement. Donc c'est un artifice qui, je ne sais même pas si on serait capable de le faire aujourd'hui, si c'est dans les considérations, parce qu'à l'époque c'était des vêtements très précis, les communautés étaient on pouvait les distinguer très facilement. Donc il fallait faire attention, mais en même temps on était protégé par ce statut.
En tout cas, Charles de Foucault, il reste combien de temps au Maroc?
2 ans de voyage, je pense, quelque chose comme ça.
Donc, il s'en sort bien. Et nous verrons après où est allée sa vie, parce que ça a été quand même un moment décisif. Ça,
il n'a pas la foi à cette époque. Il a perdu la foi.
Oui, il l'a perdu assez tôt, en fait.
Il la perd assez tôt, oui.
Nous allons retrouver notre Charles de Foucauld un petit peu dans une nouvelle vie, justement, après ce voyage au Maroc et après avoir écouté Sarah Maison, Western Arabisant.
Sur France Inter.
Sébastien de Courtois, vous avez écrit « Passer par le désert » sur les traces de Charles de Foucauld. C'est édité chez Bayard. Nous avons évoqué avec vous la jeunesse de Charles de Foucauld. C'est une vie un petit peu de bambochard, après d'aventurier. Et il est complètement athée, mais il a une révélation. C'est ce que nous allons voir avec vous. Mais j'aimerais, à propos de désert et de révélation, vous faire entendre Éric Emmanuel Schmitt qui raconte à Lélie Anvar sur France Culture, nous étions en 2015, la révélation qu'il a eue, lui, dans le désert, il nous dit ce que ça lui a apporté.
Ce que j'ai reçu au cœur du désert, ce que j'ai reçu dans le Sahara, c'était pour moi, mais ce n'était pas que pour moi. Tout d'un coup, habiter la vie en ayant confiance, habiter le mystère avec la foi. C'est un événement qui ne doit pas rester clos dans mon âme et aux portes de ma bouche. Il fallait que j'en témoigne. Mais la grande difficulté était de trouver les mots. Parler de l'ineffable, c'est très difficile. Et puis la raison extérieure, c'est que nous vivons une époque où la foi est défigurée. Il y a des brutes, des assassins, des criminels, des tyrans, des violeurs, des voleurs qui commettent les pires crimes au nom de la foi. Et quand on a une vie intérieure, qu'elle soit une vie spirituelle religieuse, une vie spirituelle athée, quand on a une vraie vie intérieure, on ne supporte pas de voir cela préempté par des brutes qui n'ont pas de vie intérieure.
Voilà, Éric-Emmanuel Schmitt a eu cette révélation, lui, dans le désert. Sébastien de Courtois.
Je me permets juste de commenter ce qu'a dit Éric-Emmanuel Schmitt,
sûr.
Parce que quelle justesse dans ses propos. Il aurait pu être Foucault, en fait, parce que c'est pas la même époque, mais Foucault a un peu ce rejet de l'institution. Il respecte, bien entendu, la hiérarchie, mais il est foncièrement individualiste, au fond de lui-même. Il ne peut qu'obéir à Dieu, ou à cette représentation qu'il s'en fait, à cette foi qu'il retrouve, et à lui-même, en fait. Et quand il demande des conseils aux autres, à l'abbé Huvelin, ou à tous les gens qui l'ont accompagné dans leur vie, en fait, il écoute, et après, il fait ce qu'il veut, complètement.
Il est vraiment hyper indépendant. Hein.
Indépendant, pas au sens d'individualiste, mais indépendant dans sa pensée et dans sa logique. Une spiritualité qui est foncièrement jésuite, en fait, qui n'accepte pas les cadres.
C'est pour ça qu'il s'est fait renvoyer pour indiscipline précédemment.
Il continue à être cette tête dure qu'il a été jusqu'au bout, oui.
Il est étanche à l'autorité, en fait.
Oh, je pense qu'il devait avoir beaucoup de mal à accepter des ordres ou des directives. Il respecte l'institution, attention. Voilà, il ne manifeste pas un engouement particulier pour l'obéissance. Voilà, il n'était pas athée, si je puis me permettre.
Ah, je me trompais. Diagnostic. Voilà.
Non, ça fait partie de ces gens, toute une génération à l'époque aussi, qui se prennent distance de l'Église et qui perdent la foi. C'est comme un fleuve qui s'assèche.
Mais quelle est la différence?
La différence, c'est plutôt une forme d'agnosticisme plutôt qu'un athéisme. Un athéisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus militant, beaucoup plus. Non, lui, il a jamais.
Il a une juste... espèce d'indifférence.
Voilà, exactement. Ouais, une indifférence. Juste, j'ai plus la foi. N'insistez pas, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille.
Ça ne me regarde pas, je m'en fiche un peu.
Voilà, exactement. Et c'est là où son parcours devient aussi intéressant par rapport à ça, c'est qu'il a une première reconversion quand il, dans les travées de l'église Saint-Augustin, donc à Paris.
C'était son quartier, c'est un quartier bourgeois, un quartier...
C'est le quartier, oui, de la haute société de l'époque, un peu arriviste pour certains, Napoléon III.
Les tableaux de Caillebotte, dit François Sureau.
Voilà, il a tout à fait raison. Ouais. C'est très très bien vu. Mais il faut parler aussi, surtout, de sa deuxième reconversion, qui est très importante à mon avis, qui se passe quand il commence à voyager justement et à se déplacer en Algérie, à découvrir le pays dans le regard de l'islam. Et ça aussi, il n'est pas le seul de son époque. Il ne faut pas oublier cette période où beaucoup de gens sont devenus désorientalistes, sans que ce soit péjoratif à l'époque. Maintenant, ça l'est devenu, mais pas à l'époque, où ces gens ont appris l'arabe, ont voulu s'intéresser à toute la culture par la peinture, par l'étude de la littérature, des textes, par la fascination qu'exerçait l'islam sur ces gens-là. Certains se sont convertis à l'islam, et il y a eu une possibilité peut-être que Foucault lui-même s'intéresse à l'islam de cette manière-là.
Séduit par la culture.
Qu'est-ce qu'il avait vu ? Voilà. N'oublions pas que ce sont des aristocrates, et que l'islam à l'époque est une culture d'aristocrates. Les grandes mosquées, les monuments, une culture exceptionnelle, des érudits qui vous récitent Ibn Arabi dans le texte, qui le commentent toujours d'une certaine manière.
Des gens brillants.
Des gens brillants. Et surtout, une simplicité dans la prière et dans ses appels qui devaient être fantastiques. Vous imaginez la voix du muezzin qui est portée dans ces petites villes, un minaret qui est à une quinzaine de mètres, le muezzin qui monte lui-même, qui chante. Bon, maintenant, c'est une cacophonie parce que ce sont des haut-parleurs partout, mais il faut se remettre un petit peu dans l'ambiance de l'époque.
On peut dire que ça prend.
Ah bah ça prend complètement. Ouais. Et en chemin inverse, le catholicisme français s'était complètement embourgeoisé et institutionnalisé. Donc pour des jeunes gens comme ça, qu'ils soient de famille ou pas de famille, là ils redécouvrent une espèce de spiritualité, de foi pratique,
fervente, authentique.
Qui se disent mais voilà, qu'avons-nous perdu et qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux? Voilà. Ouais. Et je pense que c'est comme ça que beaucoup, dont le père de Foucault, là je pense que c'est certain, ont retrouvé leur propre foi par ce regard dans l'islam.
Donc en fait, il renoue, puisqu'il a vu cette fois enfant, jeune enfant, il renoue avec Dieu au point de rentrer dans, j'allais dire de rentrer dans la profession, au point de vouloir être religieux. Bon, il prend la religion de sa famille et il va à Nazareth où il s'engage comme domestique chez des religieuses.
Alors j'aime bien ce que vous avez dit. Ouais, c'est une question de métier, quoi. C'est une question de profession, ouais. Véritablement, une vocation. Alors là, il rentre un peu dans un extrême inverse, c'est-à-dire que on parle d'une forme d'agnosticisme, il perd la foi, à un excès inverse, c'est-à-dire l'humilité la plus totale, la dénégation du soi, souffrir, la pénitence, pour essayer de trouver quelque chose. Il y a une recherche d'absolu dans la vie de cet homme.
Il y a quand même quelques minutes, vous nous disiez que c'était champagne pour tout le monde, oui. Au début de sa vie, et les copains et les copines, c'est quand même curieux.
Mais c'est ça qui est magnifique, je trouve. Et c'est cet aspect-là que j'ai voulu, j'ai pas trop insister non plus pour pas que ce ne soit que ça, mais j'ai voulu vraiment le mettre en avant pour l'humaniser tout simplement.
Ouais.
C'est un jeune homme de son époque, qui essaye de trouver son chemin, qui essaye de trouver sa voie. Il
Donc,
doute.
Le voilà parti à Nazareth.
Il s'ennuie là-bas.
Il s'ennuie. Il revient en France, il se fait ordonner prêtre, il va chez les trappistes.
Alors, il va d'abord chez les trappistes.
Ah, et ensuite à Nazareth.
Voilà. D'accord. Et il faut savoir que lorsqu'il est ordonné prêtre en 1891, ça le sort finalement de son absolutisme. C'est-à-dire qu'il ne veut plus être ce moine isolé du monde dans sa cellule. Quand on devient prêtre, on accepte le sacerdoce. Donc, on va à la rencontre des autres. Et je pense que c'est la prêtrise, finalement, qui l'a sauvé.
Il adhère à une communauté.
À une communauté et normalement à une paroisse, c'est-à-dire à une communauté humaine. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui l'a emmené dans le désert? Parce que quand on parle de Charles de Foucault, Sébastien de Courtois, on pense au désert. D'ailleurs, le titre de votre livre, c'est « Passer par le désert ».
Ça vient d'une de ses lettres, ça. C'est ce qu'il dit. Il écrivait, mais énormément. Il y a eu des centaines de lettres, un bourreau de travail. Il travaillait 11 heures par jour. Il aidait les gens, il allait faire des cultures, enfin, commander des choses en France pour des objets, pour les donner aux Touaregs, enfin. Et il écrivait beaucoup, donc c'est pour ça qu'on sait à peu près
C'est bien pour vous, les historiens, les écrivains, les biographes.
Et puis c'est intéressant, il écrivait merveilleusement bien, il décrit, il raconte ce qui se passe dans son petit coin de Tamanrasset. Je crois que le désert, pour revenir à votre question, le désert, tous ceux qui l'ont vu ont pu comprendre qu'on est aspiré par cette immensité. Il faut regarder la carte de l'Algérie, il faut regarder cette immensité du Sahara. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique en superficie. Vous imaginez les méharés de l'époque, les 40 chameaux, les quelques soldats d'un village à un autre, d'un point d'eau à un autre. Ça devait être quelque chose de phénoménal, je pense, comme impression de liberté. Les aventuriers sont épris de liberté. Et même quand ils se rendent à Tamanrasset, c'est-à-dire au fin fond de là où un homme peut aller s'installer pour vivre, il était profondément toujours épris de liberté.
Mais il est allé plus loin que Tamanrasset, finalement.
Il est allé plus loin, oui. Mais guère plus loin, parce
plus loin.
Vous pensez à la Sécrème.
Oui.
La Sécrème est à 60 km de Tamanrasset, mais c'est en hauteur. C'est un endroit en hauteur, où je ne suis pas allé. Hein,
mais il y a du passage, il y avait du passage. Et là, il est en terre Touareg, en pays Touareg.
En
admettant que les Touaregs est un pays, mais
bien sûr, oui.
En passage Touareg.
Ah bah c'était des nomades, hein, c'était les seigneurs du désert.
Et là, encore une fois, il est pris, il est séduit, il parle leur langue. Et la grande affaire de sa vie, ça a été d'écrire un dictionnaire français-Touareg. Le Touareg français, comment?
Touareg français, c'est le grand mystère, c'est son grand œuvre.
Ça n'existait pas.
Ça n'existait pas, mais pour ceux qui essayent d'apprendre des langues étrangères un peu compliquées, comme c'est mon cas avec le turc, par exemple.
Je rappelle que vous vivez à Istanbul.
Voilà, c'est très compliqué, ces langues. Il a écrit le dictionnaire en 4 volumes en 11 ans. J'ai interviewé des gens qui ont travaillé sur cette question-là, qui connaissent la langue des Touaregs. Ils m'ont dit, on ne comprend pas comment il a pu faire. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'au-delà du dictionnaire, il a sauvé la mémoire orale du peuple Touareg dans sa région, parce qu'il prenait systématiquement note des poésies que les gens se répétaient entre eux. Donc ce sont les seules traces de poésie précoloniale que nous ayons, c'est grâce au père Charles de Foucault.
En fait, il a couché par écrit une tradition orale. Il a fait ce que les frères Grimm ont fait en Allemagne, il l'a fait en pays Touareg.
Exactement.
Ouais.
Mais ça, je ne pense pas qu'il l'avait prévu. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du destin. Ça, c'est quelque chose qui lui arrivait comme ça. Il avait un désir, il avait une pulsation de vie et une soif d'absolu, de liberté. Mais je pense pas qu'il avait prévu absolument.
Il n'a pas pu s'en empêcher.
Oui.
S'il est resté, c'est qu'il était bien. Parce qu'on a compris depuis le début que quand même, il ne fait rien par obéissance, il fait tout par goût.
Oui, indépendance. N'oubliez pas qu'on parle souvent de l'ermite au désert. Il n'est pas un ermite. L'ermite est celui qui est seul.
Vous dites qu'il y a beaucoup de passages.
Lui, il cherche le contact et il cherche le passage. Quand il va à la Sécrème, c'est l'endroit où les Touaregs amènent leurs troupeaux quand il faut trouver de l'herbe. Donc ce sont des routes d'alpage au niveau de la qualité de l'herbe qu'on peut trouver dans ces régions-là. Et ce sont le début des routes commerciales. Donc il s'installe très précisément à un croisement de ces routes.
Ah oui.
Parce qu'il veut rencontrer les gens qu'il ne peut pas rencontrer si facilement que ça. Les nomades, voilà, c'était l'obsession des nomades. N'oublions pas aussi une autre chose, c'est qu'il est chrétien. Donc son objectif, c'est de transmettre la bonne parole. Comment s'est développé le christianisme au tout début? C'est par les nomades dans les déserts de Syrie, c'est par les routes de la soie. La bonne parole, les évangiles ont été portés.
C'est votre spécialité, les chrétiens d'Orient, Sébastien de Courtois.
Je m'y suis intéressé un petit peu.
Bah vous aimez l'Orient, déjà, et vous vous intéressez aux chrétiens. C'est quand même le berceau.
Oui, c'est le berceau, complètement.
Donc, et ça a voyagé par les nomades, ce qui est logique.
Voilà, oui.
À une époque où les informations ne voyageaient pas par les ondes, mais par les pieds. Tout simplement, par les pieds des bêtes et par les pieds des hommes. Donc s'il se met à un carrefour, à un passage, c'est là, bien entendu, qu'il pourra recevoir et donner.
Et donner. Il aidait beaucoup, c'était quelqu'un de son époque, il aimait le progrès, par exemple. Donc il était très content que la TSF est arrivée, quand les routes ont commencé à venir.
Les photos.
Les photos.
Ah, c'était un geek.
Il aimait les nouveautés, oui. Il n'avait pas peur de ça, au contraire.
C'est Charles de Foucauld et c'est édité chez Bayard.
نريس استانا قام نكتفو تمي ديوان لا تسني تلاد الشكوى هنا ينورني سنجي في السنة تبارد سكوز تران دغش النوان نريس استانا قام نكتفو تمي ديوان لا تسني تلاد الشكوى هنا ينورني سنجي في السنة تبارد سكوز تران دغش النوان
c'était Tina Riwen qui chantait Sasta Nakam.
État d'esprit sur France Inter.
Alors Sébastien de Courtois, nous parlons ce soir de Charles de Foucault, puisque vous venez d'écrire chez Bayard « Passer par le désert » sur les traces de Charles de Foucault. Mais vous aviez écrit il y a quelque temps, chez Nil cette fois, sur les traces d'Arthur Rimbaud, éloge du voyage. Alors, vous faites, mais d'ailleurs dans ce livre consacré au père de Foucault, un parallèle avec Arthur Rimbaud. Si vous voulez bien, écoutons un extrait, hein, parce que la lettre en entier, ça serait un petit peu long, un extrait d'une lettre d'Arthur Rimbaud dans la voix de Jacques Higelin. C'était un documentaire qui est passé sur France 5 en 2005, qui a été réalisé par Alain Romanetti.
Quel ennui, quelle fatigue, quelle tristesse. En pensant à tous mes anciens voyages, et comme j'étais actif, il y a seulement 5 mois. Où sont les courses à travers monts, les cavalcades, les promenades, les déserts, les rivières et les mers?
Voilà, c'est un Arthur Rimbaud qui est déjà fatigué, qui je crois est déjà amputé. C'est la première fois, Sébastien de Courtois, que ces deux hommes se retrouvent dans un même livre, Arthur Rimbaud et Charles de Foucault.
J'ai pas trouvé d'exemple précédent cette tentative. Alors je suis les traces, oui, c'est vrai, c'est deux traces bien différentes, mais qui partent d'une même époque. Je suis très attaché à... Enfin, j'essaie de comprendre comment les gens qui ont le même âge, qui ont les mêmes...
Ils ont le même âge, hein, vous disiez tout à l'heure.
Deux ans de différence... Bon, bien entendu, des milieux sociaux différents, des aspirations aussi peut-être différentes. Mais finalement, qu'est-ce qui s'offre à une génération donnée? Alors l'un devient prêtre dans le désert et l'autre poète devient marchand sur la côte d'Aden et s'installe à Harar et côtoie certainement les derviches aussi, donc une spiritualité soufie, une spiritualité soufie aussi qu'a dû rencontrer certainement le père de Foucault près du Sahara. Voilà, ça m'a intéressé de mettre en parallèle ces deux vies qui ne vont pas forcément dans la même direction, mais qui peuvent se retrouver par la littérature d'une certaine manière, parce que le père de Foucault écrit beaucoup. Donc ce sont des lettres, ce sont des méditations qui ont marqué une génération. C'est-à-dire que Rimbaud a marqué une génération, bien entendu, nous le savons, mais Foucault aussi de son côté. Il y a eu des milliers de vocations religieuses, spirituelles qui...
Et voyageuses peut-être.
Et voyageuses aussi exactement, ouais. Qui ont été certainement nourries par la pensée de Foucault. J'ai voulu, d'une certaine manière, rendre hommage à ces deux chemins que j'avais suivis.
Et puis ils sont...
Et les mettre ensemble.
Je ne sais pas là où ils sont actuellement, mais peut-être qu'ils sont heureux, grâce à vous, de se retrouver dans un même livre. En tout cas, ils ont l'un et l'autre aussi un destin particulier. Ils vivaient seuls, leur but n'était pas de gagner de l'argent. Si Rimbaud, peut-être un peu, il avait envie de faire un peu de fric.
Ah bah l'un a tout claqué systématiquement, qui est le père de Foucault, et l'autre a tout fait toute sa vie pour gagner un peu d'argent. Ouais. Même sur ça, c'est intéressant de mettre... Ouais. Même leur rapport à l'argent est intéressant.
Il y en a qui s'est débarrassé de son argent, parce qu'il était très riche, le père de Foucault.
Une fortune. Ouais.
Qu'est-ce qu'il en a fait ?
Il l'a dépensé jusqu'au moment où il a été mis sur tutelle, en fait, par sa famille, qui a dit maintenant ça suffit. Et lui-même, après, a tout donné à sa sœur.
D'accord. Mais quand il était donc dans sa maison, qu'il appelait comment ? Ça avait un nom, le refuge ?
Le Bordj de Tamanrasset, qui est le nom d'une case traditionnelle. Là, il n'avait plus rien du tout. Il y avait des gens qui l'aidaient en France.
Il vivait dans le dénuement le plus total.
Ah, dans le dénuement le plus total, oui, oui. Mais de manière heureuse, si vous voulez.
Oui. C'était volontaire.
C'est pas par misérabilisme. Mais il avait conscience qu'il fallait de l'argent, par contre, pour aider ceux qui étaient autour de lui. Donc, il revenait régulièrement en France, justement, pour faire des tournées de collecte et ne pas perdre. Il n'a jamais vraiment perdu le contact complètement avec la métropole, avec les institutions.
Avec sa famille ou avec les institutions ?
Avec sa famille et avec les gens qui le soutenaient à l'époque.
En fait, en tant que religieux, il était parti, son but en tant que missionnaire, c'est un missionnaire.
Oui, oui.
Il était parti pour que les gens qu'il allait rencontrer se convertissent au christianisme. Mais il y a eu zéro converti.
C'est le drôle de l'histoire, en fait. C'est qu'à la fin de sa vie, on fait la comptabilité. C'est son ami, le général Lapérine. Ils étaient copains à Saint-Cyr, tous les deux. Et bien, il y a eu, je crois, un converti.
Oui, mais dès que le père de Foucault est mort, il est revenu à l'islam. Donc, il le faisait pour lui faire plaisir, mais il n'était pas du tout
convaincu. Voilà, exactement.
C'était mignon, d'ailleurs.
C'était assez superficiel. ciel.
Ça trouve une amitié.
En fait, il voulait être l'ami sûr. C'est une de ses formules. Être l'ami sûr. C'est très très fort parce qu'on pourrait le prendre pour notre époque. Être l'ami sûr pour nos parents, pour nos proches, pour nos connaissances. Et ça veut dire beaucoup de choses. Et lui voulait être ça. Il était suffisamment intelligent pour comprendre qu'il n'y avait aucune chance que les Touaregs se convertissent au christianisme, d'une part. Et ensuite, je pense qu'à la fin de sa vie, il était persuadé aussi que ce n'était pas préférable comme solution. Donc je pense qu'il a évolué. Vous savez, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Oui.
Et après des années passées au contact de ces gens-là, après avoir lu dans leur âme, parce que quand on connaît la grammaire des gens, on comprend véritablement un peuple. Donc il a écrit ce dictionnaire. Il était devenu Touareg lui-même, j'en suis certain.
Oui. Donc, il a complètement changé de projet, changé d'état d'esprit, puisque...
Il s'est adapté. Ouais, ouais. Il était dans le doute constant. Il n'a jamais été dans la certitude. Et dans ses lettres, on le voit très bien, parce qu'il y a des lettres qui sont par rapport à la colonisation. Il y a des lettres qu'on pourrait sortir de leur contexte qui vous dit « Ah, ben il est très, très colonialiste ». Et d'autres lettres, vous plaidez exactement le contraire. Exactement le contraire. Une dernière chose là-dessus, c'était pas clair à l'époque, ce qu'il fallait faire, les attitudes qu'il fallait avoir. Il y avait des gens comme Massignon, par exemple, le grand islamologue, le spécialiste de l'islam en France, qui avait une attitude complètement différente. Les militaires aussi, les militaires arabisants, n'étaient pas du tout pour la conversion des gens. Au début, lui, en tant que missionnaire, l'armée ne voulait pas le prendre avec lui. Parce qu'ils se sont dit, on va pas amener un missionnaire dans ces villages, ça va mettre le désordre. Qui dit désordre, ça va empêcher la sécurité. Les militaires étaient sûrs, pas du tout d'accord qu'on les christianise.
Sébastien de Courtois, nous évoquons le père Charles de Foucauld avec vous, puisque c'est le titre de votre livre « Passer par le désert sur les traces de Charles de Foucauld ». C'est édité chez Bayard. Et dans quelques instants, nous parlerons de l'époque actuelle, de la Syrie et d'un autre religieux qui était lui aussi un grand adepte du rapprochement islamo-chrétien. Il s'agit de Paolo Dall'Oglio.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur, je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur, je vais prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, cet orage avant l'été, cette chupine petite sœur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui saute dans le tiède de tes reins? Je vais la priver du désert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta douleur et tous ceux qui n'ont plus rien. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science à quand se contre nos pensées. Si tu as pas là où t'as peur, tu n'as pas mal là où pense. Qu'est-ce qu'elle veut cette connasse? Le beurre ou l'argent du beurre? Que tu vives ou que tu meurs? Faut qu'elle crève de bonheur ou qu'elle change de godasse? Faut qu'elle croule sous les fleurs, change de couleur. Je vais prendre ta douleur, je vais jouer au docteur. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que faut la science, quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante.
Vous évoquiez l'ami sûr, Sébastien de Courtois, à propos de Charles de Foucault. Eh bien, ce titre de Camille, Ta douleur va bien.
Noël Bréham, État d'esprit sur France Inter.
Alors, Sébastien de Courtois, vous terminez ce livre qui n'est pas vraiment une biographie, mais une enquête hein, sur les traces de Charles de Foucault. C'est ça le titre, je rappelle qu'il est édité chez Bayard. Vous terminez en parlant d'un autre religieux qui lui aussi a été l'ami sûr. C'est beau, ce nom que vous avez dit, ces deux noms que vous avez évoqués, qui pratiquaient l'hospitalité inconditionnelle, hein, ce sont vos termes. Écoutons, si vous voulez bien, Sébastien de Courtois, quelqu'un que vous évoquez dans votre livre. Écoutons sa voix et après vous nous en parlerez. Il s'agit du père Paolo Dall'Olio.
L'espoir, c'est une vertu. Elle trouve toujours une voie pour forcer le présent vers une future souhaitable. Et les chrétiens, les croyants, les musulmans et les chrétiens croyants qui sont dans la révolution demandent la solidarité des croyants musulmans et chrétiens du monde citoyen international et surtout européen pour qu'ils ne ferment pas leurs yeux et qu'ils ne tuent pas notre espérance.
Alors, Sébastien de Courtois, vous dites que ce père Dall'Olio pratiquait l'hospitalité inconditionnelle, qu'il était pour le dialogue islamo-chrétien. Il a disparu depuis 2013. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce qu'on vient d'entendre? Et puis, qui était cet homme et pourquoi vous nous en parlez?
Alors, il a profondément raison dans ce qu'il dit. L'hospitalité est quelque chose d'indispensable, qu'il faut jamais l'oublier. C'est un devoir de vie, un devoir d'humanité, je pense. Dans le désert, bien entendu, parce que comme il n'y a rien ni personne, quand on voit quelqu'un, on est heureux de voir son prochain passer. Et lui s'était installé, c'est un père jésuite italien d'origine, c'est un géant, je pense, un géant étant physique. Il est immense, on va en parler toujours au présent.
Oui, parce il a disparu.
Voilà, il a disparu, il s'est rendu, il a eu la folie de croire qu'il pouvait négocier la liberté de certaines personnes. Donc il s'est rendu lui-même à Raqqa, dans le fief de l'État islamique, et nous n'avons plus de nouvelles depuis l'été 2013. Voilà. C'est un géant du siècle, je pense. Ça fait partie de ces gens qui marquent profondément ceux qui l'ont connu. Et il avait refait vivre ce petit monastère au nord de Damas, en Syrie, qui était une ancienne fondation syriaque. Oui, oui, je l'ai visité plusieurs fois. Et quand on parle d'hospitalité, oui, là, la tente était exercée dans la cour, il y avait constamment du monde, du passage, des bédouins du coin qui s'arrêtaient pour discuter le coup et qui l'invitaient justement à la prière, et des gens, des touristes, des diplomates, tout un tas de...
Tous ceux qui passaient.
Tous ceux qui passaient, voilà. Un mélange étonnant, vraiment, vraiment un creuset d'humanité. C'est le monastère de Marmoussa. Et ça m'émeut beaucoup d'entendre sa voix. Et voilà, je pense qu'il y avait une forme d'absolutisme dans sa vision. Et l'absolutisme est une forme de folie aussi. Hein. Ne nous voilons pas la face. Hein. Il faut être un peu fada, comme on dit chez moi, dans le midi pour agir et pour avoir ce genre de vision.
Ça dépend quel est son but. Est-ce que son but est de vivre vieux ou est-ce que son but est de remplir une mission?
Je pense que leur but est d'être des humains à part entière, d'être eux-mêmes. D'être la manière dont ils se voient eux-mêmes, donc avec les autres. Ce sont des prophètes, d'une certaine manière. Alors, on l'a dit pour Foucault, hein. Je me permets pas de le dire pour le père Paolo, bien entendu. Mais pour Foucault, le fils de Lyoté qui l'a vu, il l'a pris pour un prophète. Bon. Ouais. Alors.
Il y avait le look aussi.
Voilà.
La barbe, la maigreur.
Puis l'illumination, regard éclairé qui ne s'attache à plus rien de matériel. Ouais. Bon, le père Paolo avait les pieds sur terre, il a recréé l'agriculture, il avait besoin de faire des travaux, il était dans le quotidien, enfin il était véritablement à 100% dans la vie, mais aussi à 100% dans la foi et à 100% dans la rencontre.
Merci Sébastien de Courtois. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Passer par le désert, sur les traces de Charles de Foucault. C'est édité chez Bayard. Vous évoquez également les déserts d'Asie dans lesquels vous êtes allé. Je rappelle, puisque nous en avons un petit peu parlé aussi, sur les traces d'Arthur Rimbaud, cette fois c'est édité chez Nil et le livre s'appelle Éloge du voyage. On vous écoute également sur France Culture le dimanche à
8h.
Du matin. Pour évoquer les chrétiens d'Orient. D'abord, c'est pas si tôt, 8h du matin, et on peut podcaster votre émission.
Exactement, merci.
Vous pouvez également podcaster cet état d'esprit et aller faire un tour sur notre site. La semaine prochaine, nous parlerons avec le docteur Philippe Jamet. Nous évoquerons sa vie de psychiatre et puis nous parlerons aussi des émotions qui mènent la nôtre de vie. Merci à Simone de Poux qui a réalisé cette émission. Merci à Emmanuel Fournier qui l'a préparée. Muriel Pérez s'est occupée de la programmation musicale et Alice Berger de la prise de son.